Bonsoir. Nous sommes à deux pas de la rue de l'Avenir, au chemin des Cheminots, dans le théâtre du Hangar, en plein au milieu du festival des Bruissonnantes. Et nous bruissonnons, nous bruissonnantons, nous bruissonnons depuis hier soir, nous bruissonnerons ce soir, nous bruissonnerons demain soir. Le festival des Bruissonnantes est un festival de poésie à voix haute, avec du bruit, avec du son, avec du chant, avec du corps, avec du cri, qui se déploie à Toulouse depuis maintenant une dizaine d'années et qui succède au festival des Perce-Oreilles, des Perforeilles. C'est un festival qui dure en effet 3 jours. Chaque soir, il y a 3 intervenants, qui peuvent parfois être 2 pour un seul spectacle. On commence à 21h, on finit vers 21h, vers 23h. On ajoute à cela toujours une émission de radio, le 2e jour, et une conférence sur le thème des Printemps des Poètes, l'Afrique cette année, les Afriques, donc le 3e jour, le samedi. Alors, ce festival, hier soir, a très bien commencé avec une première soirée, avec 3 interventions, Catherine Froment, Laura Vasquez, Laurent Avizou. Laurent Avizou qui nous a fait de la guitare préparée, nous a fait découvrir un univers, on l'entendra tout à l'heure, il est près de moi. Laura Vasquez qui est repartie vers la Marseille très lointaine et qui nous a dit un certain nombre de textes d'une voix grave et profonde. Et Catherine Froment qui s'est retrouvée après avoir poussé quelques cris, envisagé de arracher tous les arbres du quartier, s'est retrouvée nue, enterrée par Jean-Marie Champagne sous le magnifique galet de Garonne apporté par un certain abbé Maurer. Donc on a eu hier soir un spectacle complet en 3 temps, une sainte trinité de la poésie des Bruissonnantes. Ce soir, nous aurons les parleurs, nous aurons Julien Labrigeon et nous aurons Claire Bergerot. Un parleur est là, 2 parleurs sont là, j'en suis un. Julien Labrigeon est là, Claire Bergerot est là, et donc nous sommes 5 autour de cette table. Et tout de suite, je donne la parole à Sébastien Lespinasse, poète sonore bien connu, toulousain et montreuillais, marseillais et d'autres lieux encore, vaguement africain, on le verra demain soir. Les parleurs, qu'est-ce que c'est ?
Alors les parleurs, c'est un groupe de gens qui s'aiment beaucoup et qui aiment partager les textes. Nous sommes 5 à partager ces textes-là, donc il y a Yves Le Pestipon, il y a Jean-Marie Champagne, Didier Roux, Laurence Rioux et moi-même. Et on travaille depuis très longtemps, on se connaît depuis très longtemps, peut-être depuis presque 20 ans, et on travaille ensemble le partage du poème. Alors c'est un grand plaisir de faire cette chose-là collectivement. C'est un peu comme si on allait chercher tout ce qu'on aime, qu'on le partage. Tout le monde arrive avec ses poèmes. On a souvent une idée un peu de comment ça va fonctionner, comment ça va marcher, cette petite machine qu'on essaye à faire, à tisser à 2, 3, 4, 5 voix. Et très souvent, on arrive avec une idée, une intention, et on se rend compte que ça n'est jamais tout à fait la bonne. Quelqu'un d'autre prend la proposition, la retourne un petit peu, la déplace un peu, hop, le désir se met en route. Et quand le désir arrive, les machines commencent à fonctionner, les choses commencent à s'ajointer les unes aux autres, et de temps en temps, il arrive qu'un poème puisse respirer par notre bouche, et ça, c'est vraiment un moment de joie quand on arrive à porter collectivement, et pour moi, cette dimension collective de la parole est vraiment essentielle avec les parleurs. Voilà, un peu pour résumer en quelques mots. Les parleurs, c'est quelque chose qui existe depuis, je crois, 5 ans ou 6 ans. C'est une émanation du festival Les Bruissonnantes. En fait, on se retrouve tous les 5 souvent à faire la programmation ensemble des Bruissonnantes. Donc on aime un certain nombre de choses dans la poésie. Et on s'est rendu compte qu'au fond, non seulement il y avait la programmation, mais qu'on avait envie de programmer des poètes morts. Et c'est très compliqué de programmer des poètes morts. On aimerait beaucoup inviter, je ne sais pas moi, par exemple, Charles Villon, j'aimerais bien l'inviter aux Bruissonnantes, mais c'est vraiment difficile. C'est pas Charles.
François,
n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est les Charles me gênent beaucoup. François Villon et d'autres, on aimerait beaucoup les inviter. Et il y a des petits problèmes, je sais pas comment dire, métaphysiques, ontologiques, existentiels. Et le fait de pouvoir les ressusciter un moment par notre bouche, c'est quelque chose d'important. Même si des fois, il nous arrive aussi, alors c'est peut-être une manière de les tuer d'ailleurs, de dire des textes de poètes vivants. Hein, c'est une manière de les tuer, de les ressusciter. J'ai moi-même été plusieurs fois tué et ressuscité. Ce soir, nous tuerons et ressusciterons, par exemple, un passage d'un poème de Charles Penquin. qui s'appelle vraiment Charles. Celui-là, je promets, c'est pas François Penquin. Voilà.
Voilà, peut-être l'idée, si je peux me permettre d'ajouter un mot, c'est effectivement de mêler des choses très différentes, à la fois des textes de poètes morts ou vivants, ceux qui sont vivants, on se charge de les tuer, ceux qui sont morts, on se charge de les ressusciter, mais aussi des textes qui ne viennent pas du tout de la littérature, par exemple un mail, un article de journal, etc., des bruits qui viennent d'endroits et d'autres. Et l'objectif numéro un, c'est de faire peut-être à plusieurs un récital de poésie tel que les spectateurs ne meurent pas d'ennui. Parce qu'en effet, souvent, le récital de poésie est un magnifique exercice pour tuer les gens. Mmh. Et là, on a observé qu'effectivement, des gens survivaient à ce récital de poésie, parfois en riant, et désiraient parfois revenir, étaient même prêts à payer pour revenir encore et encore et encore. Et donc là, c'est un objectif qui est un peu atteint. Mais
Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter. Ce qui est intéressant aussi dans ce partage du poème, c'est que ce n'est pas qu'un partage des voix, c'est aussi un partage d'un espace poétique et d'un rêve que chacun se fait du poème. Je pense que on vient sur scène avec chacun une version qui n'est pas tout à fait la même du poème. Et on traduit ensemble le poème, on le traduit oralement. On a une partition écrite, ou plutôt on n'a pas une partition et on crée une partition à partir du texte. Et on crée cette partition vraiment par le travail direct, hein, vocal. Et moi, j'ai toujours un rêve. J'ai l'impression que... Alors ça renvoie à une histoire qui est celle que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du mouvement dadaïste, qui a inventé aux alentours à la fin de la Première Guerre mondiale à peu près, un poème qu'on appelle le poème simultan, qui était un poème à plusieurs voix. Et j'aime beaucoup cette idée comme ça, qui défait complètement l'idée du poète solitaire, seul face à la feuille. Là, c'est un groupe. C'est un groupe et c'est quelque chose on porte et on est porté par les textes. Hein. C'est les textes qui nous portent et qui nous ressuscitent aussi, parce que nous sommes morts aussi.
Alors Julien Dabrigeon, vous êtes une figure bien connue des scènes poétiques contemporaines, entre Boxon et Tapin, voilà. Et alors ce qui me frappe en voyant un peu loin les choses, c'est qu'effectivement, pour poursuivre l'idée de Sébastien, vous êtes un peu dans, à la fois un homme particulier, mais aussi dans des collectifs, vous travaillez avec d'autres, oui. Et vous n'êtes pas un poète solitaire, voilà, isolé dans une tour d'ivoire, avec peut-être quelques admiratrices au loin, mais vous êtes dans des équipes. Et alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect peut-être c'est une entreprise poétique, quelque part, Julien Dabrigeon, un collectif ou des collectifs, je ne sais pas.
Oui, alors, une tour d'ivoire, j'aurais bien fait, mais il fallait tuer beaucoup d'éléphants.
Attends, Julien, excuse-moi.
Ah, celui-là, je suis maudit avec les... Non, ça marche bien, non?
Oui, ça marche.
Voilà. Donc, je dis une tour d'ivoire, j'aurais bien construit ça, mais il fallait tuer beaucoup d'éléphants. J'en ai tué deux, trois, puis après, ça montait pas assez. Donc, je me suis dit qu'il fallait travailler plutôt en collectif. Non, en fait, quand j'étais étudiant, quand je me suis intéressé à la poésie, on était deux copains à s'intéresser à ça. Et on s'est retrouvés avec d'autres gars qui s'intéressaient à ça. Et on a formé un collectif, mais sans vouloir le former, en fait. On s'est retrouvés, non pas une bande de copains qui formaient quelque chose, mais une bande de poètes qui se sont dit qu'ils pouvaient s'entendre. Et on a créé Boxon, qui était au début une revue fondée par Gilles Cabu. Et dès le premier numéro, on s'est retrouvés, une petite équipe. Et dès le numéro 2, certains sont venus nous voir, Cyril Bray est arrivé et Patrice Luchet est venu de Bordeaux nous voir. Et finalement, le collectif, le jour de la sortie de la deuxième revue, on était à peu près tous là. Et je m'aperçois que c'est ce jour-là que j'ai rencontré à peu près tous mes amis dans la même soirée. Enfin, c'est un truc assez étonnant. Et effectivement, nous, on avait des dégoûts communs pour une certaine poésie qui nous déplaisait. Et des goûts communs et des goûts différents que l'on s'est fait découvrir entre nous. Et en collectif, c'est super, parce que voilà, il suffit que certains connaissent deux, trois choses. Dès qu'on est 5, on en connaît 15, et dès qu'on est 10, on en connaît 30. Et on a aussi beaucoup travaillé le poème simultané, au simultan. Alors moi, j'aime bien Pierre-Albert Biro, notamment, qui arrive avant Dada, et qui faisait déjà des poèmes simultanés. Et dès qu'on a fait ça, on s'est amusé. Et c'est vrai que Boxon, ça date de 97, on va avoir 20 ans. Et on a toujours fait des trucs à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est un plaisir incroyable de bosser avec des gens, quoi.
Après, vous dites beaucoup amusé. C'est parfois dans les débats poétiques, amusé, c'est pas le mot. Les poètes pleurent.
Ah non.
J'espère bien, mais bon.
Enfin, les textes peuvent être durs, peuvent parler des choses sérieuses, mais la lecture, c'est pas... Enfin, dans le collectif, il y en a qui lisent plus, parce que pour eux, c'était dur, c'était angoissant de lire. Mais dans ceux qui lisent encore, il y a un plaisir de lire, même si c'est des textes qui peuvent être sombres ou durs. Il y a quand même une joie de faire ça, même si ce n'est pas forcément du spectacle. Il y a un plaisir de travailler à plusieurs. Et comme je disais, c'est une bande de poètes qui sont devenus des copains et pas le contraire. Donc c'est bien qu'on n'a pas explosé en 20 ans. Et si on se sépare, ça ne sera jamais parce qu'on se sera déchiré. Et l'aventure Tapin, c'est autre chose. C'est plus personnel. Là. Le site, je l'ai fait tout seul.
Peut-être tu peux expliquer l'acronyme Tapin, parce que...
Ah ben, il n'y a pas bien d'explication, en fait. L'explication, elle vient de Boxon, puisque la revue Boxon, quand Gilles l'a créée, c'était Maison de Tolérance et... comment il a appelé ça ? Pas Maison Close, justement, mais une Maison de Tolérance. Et l'idée de Tapin, c'était faire un site Internet, parce que... On va reprendre sur l'idée de la revue. Quand on a fondé la revue, quand on était étudiant, on n'avait pas un sou. Et toutes les revues poétiques qui nous intéressaient valaient trop cher pour nous. Java, Niox, ça valait 100 francs, c'était beaucoup trop cher pour des étudiants. Donc on se dit, la poésie est réservée qu'aux poètes ou aux gens qui s'y piquent. Et on voulait faire une revue qui valait absolument rien. Et on a un système économique à perte, auquel on tient, et qui fait qu'on tient depuis 20 ans. Et on voulait une revue qui puisse être lue par des étudiants et achetée par des étudiants. Et là, c'était 97, et en 97, c'est l'époque où arrivait Internet dans les foyers. Et moi, j'ai dit, mais il faut faire un site, quoi. Et il y avait Ubu qui venait de se créer en 96, et j'ai dit, il faut lancer aussi un site. Alors, le temps qu'on le crée, qu'on trouve une copine qui veuille bien faire le côté technique, il est sorti en 98, et je l'ai appelé Tapin, parce que c'était le lien avec Boxon, qui était la maison close, et Tapin, c'était aller sortir et aller directement chercher les gens qui n'avaient pas besoin d'acheter la revue et de rentrer dans le petit cercle de la poésie, mais au contraire, on allait un peu racoler et aller chercher les gens. Donc après, à partir du mot Tapin, je suis allé chercher toute la poésie inadmissible sur le net, mais aussi toute la poésie idiote, totale action poésie, enfin ça peut être n'importe quoi. L'idée de Tapin, c'est avant tout le nom qui concerne cette idée d'aller à l'extérieur et aller grappiller les gens qui ne connaissent pas la poésie, qui tomberaient dessus, et les ramener dans notre giron. Et donc le site, voilà, après, c'était plus personnel. Il a beaucoup vécu au début des années 2000. Il était très, très, très actif, puis il commençait un peu à décliner, ce qui fait qu'après un voyage en Uruguay où je me suis aperçu que là-bas, ils connaissaient le site, je me suis dit, c'est quand même dommage de... perdre ça. Puis je voyais plein de jeunes poètes qui me disaient, ben moi je connais la poésie par Tapin, machin. C'est quand même dommage de laisser ça. Et donc j'ai fait un petit appel sur Internet, savoir qui pouvait m'aider à le relancer. Et il y a Vincent Drouot qui nous avait vu une fois en lecture, qui m'a dit, ben moi je peux. Et il a fait un boulot de dingue pour reconstruire le site. Et voilà, donc la programmation, je m'en occupe. J'essaie d'inclure justement Vincent pour pas être tout seul, c'est parce que c'est toujours mieux à deux et c'est toujours mieux en collectif. Mmh. Et voilà.
En tout cas, merci, parce que c'est un site très utile pour découvrir et voir. Et ce soir, qu'est-ce que vous comptez nous proposer ?
Ah, je vais lire des extraits de mon dernier livre, Sombres Abords, paru chez Kidam, qui est l'adaptation d'un album de Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, donc en deux faces et en 10 chants. Et quelques textes faits pour être lus, puisque je ne publie pas mes textes. J'écris quelques livres qui sont faits pour être publiés, mais ceux que j'écris depuis 20 ans, ce n'est pas fait pour ça. Donc ça apparaît des fois dans des revues, mais sinon c'est de la publication orale. Et donc c'est des textes qui, pour l'instant, ne sont pas prévus pour la publication, puisque leur intérêt est la lecture.
D'accord. Alors Claire Bergerot, vous êtes une chanteuse et avec accordéon aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'accordéon d'abord ? Parce qu'avec Sébastien, on adore l'accordéon.
C'est vrai. Alors, l'accordéon, donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? J'ai joué de l'accordéon, en fait, j'étais assez petite, puisque mon père a une école d'accordéon à Poitiers, enfin, mon père et ma mère. Donc je suis tombée vraiment dedans à la naissance. Et puis vers 9-10 ans, j'ai arrêté de jouer de l'accordéon parce que j'avais envie de jouer du piano. Parce que le piano, l'accordéon, c'était pas terrible en fait à l'école et tout ça. C'était pas chouette. Donc j'ai arrêté et puis après, il y a 10 ans, 15 ans même, donc je chantais et j'improvisais déjà. Et puis je suis retombée sur l'accordéon de mon père et là je me suis dit, waouh, d'accord, bon, ok, je vais un petit peu voir ce qui se passe là et... Et ça m'a vraiment, ça, voilà, ça, c'est parti sur autre chose, quoi. Le chant aussi a été a changé avec l'accordéon. Mmh.
Vous avez chanté sans l'accordéon d'abord ?
Après. J'ai chanté sans l'accordéon, mais je faisais beaucoup de piano et je chantais. J'ai appris.
Alors selon les endroits, on vous nomme comme chanteuse et l'autre endroit vocaliste.
Je crois alors que là, ça, sur le programme, moi, j'ai pas de vocaliste. Je ne sais pas quoi dire de ça. Et moi, je mets chanteuse parce que c'est plus simple, mais il y a des gens, à la fin des concerts que je fais, ils me disent, est-ce que vous chantez ? Ils se posent la question, certains m'ont dit, mais vous avez appris à chanter ? Enfin, je ne sais pas, c'est assez bizarre.
Parce que quand on dit chanteur, on pense, je ne sais pas, à Georges Brassens ou n'importe, enfin, quelqu'un qui chante un texte écrit par lui ou par un autre, d'une manière plus ou moins mélodieuse, et avec des paroles qui sont reconnaissables. Est-ce que c'est...
Ben moi, il n'y a pas de paroles du tout.
Voilà.
C'est une chanson sans paroles. Voilà.
D'accord.
C'est ça. Et, donc, et juste peut-être, Claire, tu me disais tout à l'heure que tu improvises en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment tu construis une improvisation, comment ça fonctionne un peu pour toi, peut-être ce soir, par exemple, comment tu conçois ça, ou si tu ne le conçois pas ?
Comment dire ? Je le conçois si, mais c'est souvent lié aux lieux dans lesquels je chante, qui sont très très différents les uns des autres, suivant... Si je vais jouer, par exemple, dans une église, je ne vais pas du tout faire la même chose que ce que je vais faire ce soir. Ou si je vais jouer dans un studio d'enregistrement, je ne pourrais pas du tout faire la même musique. Vraiment, c'est indépendant. C'est dépendant de ça. Donc, y a ça qui compte. Il y a aussi ce qu'on a envie de faire ce soir-là. Mais je ne sais pas, il y a une écoute intérieure, peut-être, aussi, qui est là, et après il faut laisser faire. Mais bon, je sais pas, je pars pas non plus complètement dans un autre moi-même, ou quelque chose de très différent à chaque fois. Je suis quand même dans une certaine forme d'écriture quelque part, puisque je vais pas changer complètement mes solos d'une fois sur l'autre. Mais on va dire, je vais commencer sur un son et après, je ne sais pas où ça m'entraîne. Quoi.
Est-ce que vous écrivez en quelque façon des partitions
après, oui, ou mais avant, pas pour moi, pas en solo, mais j'écris pour des,
pas pour vous.
Des orchestres.
C'est-à-dire, vous écrivez de la musique pour autrui, mais pour vous, vous n'écrivez pas de partitions.
En quelque sorte, en fait, de travailler l'improvisation, pour moi, c'est une forme d'écriture. Et souvent, c'est ce que je dis, ce que je préfère dans l'improvisation, c'est l'écriture, en fait.
Et est-ce que assez systématiquement, vous enregistrez ?
Tout le temps.
Tout le temps, d'accord. Et est-ce que vous travaillez avec les enregistrements de manière ou d'autre ?
Ah oui, c'est la façon de travailler, c'est comme ça. C'est-à-dire, je chante pour le travail, je fais ça, Et après, je réécoute, et d'ailleurs, de réécouter à distance, c'est mieux encore, puisqu'il n'y a plus la mémoire du corps, et... ça permet d'être plus objectif.
Et est-ce que vous travaillez parfois 2, 3, 4, enfin, c'est-à-dire ce qu'on retrouvait, des groupes comme les Parleurs ou des choses de ce genre, ou est-ce que par exemple vous pourriez faire un duo avec Sébastien ou quelque chose comme ça ?
Ah ben oui. Non, mais je travaille, il n'y a pas de règles. En fait, je travaille, en ce moment j'ai pas mal de duos. Ouais. Et puis après, j'ai aussi un orchestre que je dirige. Là, on est 25, donc c'est pas pareil.
D'accord. Et alors cet orchestre, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, je ne sais rien.
Alors, c'est un orchestre qui s'appelle Le Lobe. Et on fait à la fois des choses, à la fois des On a fait par exemple une pièce écrite, enfin entre guillemets écrite, parce que les musiciens n'ont pas de partition, n'ont jamais eu de partition. Et puis on fait aussi non des concerts improvisés, voilà, que je dirige en fonction de ce que j'entends.
Mmh. Alors comment dirige-t-on quelque chose d'improvisé ?
C'est du travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des gens qu'on connaît bien. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pas. Il faut travailler. Voilà, je travaille avec ces gens-là depuis 6 ans. Et on se connaît même. Enfin, voilà, ils savent lire dans ce que je donne. Petites indications des fois et hop, c'est
vous êtes vous-même la partition.
Non, parce que non, c'est un vrai. C'est 50-50, même pas. Enfin, moi, je suis juste là comme modérateur, on va dire.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Donc, vous arrivez à faire que tout le monde improvise finalement pour obtenir quelque chose.
Tout le monde improvise, moi aussi, mais c'est à l'écoute de ce qui se passe. Moi, je suis la seule devant à avoir l'écoute globale de ce qui se passe. Et en fait, l'idée, c'est d'aller tisser quelques liens entre les gens. Et parce que quelqu'un qui se retrouve à l'autre bout, à l'extérieur, n'a pas du tout la même écoute que celui qui va être au centre. Et moi, je j'entends parfois des choses qu'eux n'entendent pas et je mets en relief en fait, ce que j'ai envie, là, du coup.
Donc ce soir, vous allez faire une tentative solitaire,
voilà.
Sans instrument, je crois.
Si ?
Si, l'accordéon sera là.
Voix et accordéon.
Bon, très bien, on a la totale. Laurent Avizou, hier soir, vous étiez en solitaire, mais avec une guitare,
oui.
Mais vous n'avez pas utilisé la guitare de manière habituelle.
Non, dans l'énoncé, il y avait déjà une guitare préparée.
Voilà.
Donc, sous-entendez que j'allais pas peut-être l'utiliser de manière habituelle. Et je ne savais pas avant exactement ce que j'allais en faire non plus. J'avais quelques chemins, mais c'était aussi une prestation et un solo improvisé.
Ce qu'on a vu sur la scène, dans le noir du théâtre du hangar, puisque les murs sont noirs, je le décris pour les auditeurs, la lumière était faible, on a vu un grand gaillard avec une longue chevelure traîner une guitare contre le mur, marcher, l'utiliser presque comme un aspirateur par moment. Voilà. Au milieu de la scène, il y avait une machine qui émettait de la lumière et aussi des sons. Mmh. Et on comprenait que la machine était liée à la guitare, qu'il n'utilisait pas avec ses doigts de manière habituelle. Et on était pris dans une atmosphère sonore, on va dire, qui faisait rêver. On sentait des rencontres du troisième type, les martiens arrivent, la rue de l'avenir se déclenche. Enfin, on était dans une sorte de rêve étrange, pendant que sur la scène, vous faisiez une sorte de danse, en fait.
Oui.
C'est un peu l'impression qu'on avait, on était comme émerveillés, pris dans quelque chose comme ça.
Oui, il y a plusieurs choses qui sont passées. Déjà, il y avait, comme le disait Claire, la contrainte du lieu, qui en improvisation est quand même la première partition. Le lieu est là, et on se pose dans ce lieu, on va le mettre en résonance, on va écouter ce lieu. Parce qu'on est d'abord sur un phénomène d'écoute, on travaille l'instant, mais par rapport à une écoute, au rebond et aux résonances qui se passent dans un lieu. Donc ce lieu ici qui a une forte réverbération qui est quand même, et un certain espace pour un solo, parce qu'il y a une très grande profondeur, là les auditeurs ne le voient pas, mais on a quand même une profondeur de salle. Et j'ai voulu essayer d'exploiter tout cet espace. Donc on a peut-être un petit problème nous en guitare électrique, c'est qu'on a tendance à avoir un pavillon qui émet de façon très unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il va taper, si celui qui est pile en face de l'ampli va prendre un son direct. Donc j'ai choisi de retourner mon amplificateur, de projeter le son vers le fond de la salle, pour créer plutôt une résonance avec le lieu, et que tout le monde entende à peu près la même diffusion, électrique, c'est-à-dire de cet amplificateur électrique qui n'avait pas de fil. Ça, c'est juste un système sans fil qui existe depuis le début des années 80, me semble-t-il. Et aussi jouer donc avec le déplacement de mes sons acoustiques, c'est-à-dire ma guitare, je produis des sons dessus. Je me suis déplacé sur les murs, j'ai frotté sur les sols, des choses comme ça. Mais c'était aussi pour jouer avec cette. Questionner ce pont entre l'acoustique et l'amplification qui va résonner derrière. Donc quand je passais devant mon amplificateur, j'essayais de mettre en présence une présence physique, effectivement, qui dansait. Ça, c'était pour mettre en branle mes sons. et se mouvoir pour créer des phénomènes acoustiques qui sont derrière, qui rebondissent dans un espace sonore électrique. Donc essayer de travailler sur différents plans, comme ça, l'espace scénique, le fond de salle amplifié et le devant avec une proximité physique qui envoie aussi des sons acoustiques. C'est un petit peu ma partition.
Et dans quelle mesure la guitare était préparée? Parce qu'on voyait bien que vous aviez introduit des baguettes métalliques, par exemple.
Au fur et à mesure. Au début, elle est rentrée toute seule. J'ai utilisé le corps résonant. Elle était préparée dans le sens où je l'ai accordée comme je l'ai senti 30 secondes avant de rentrer sur scène. J'ai fait un accordage juste là. C'était ce moment-là. J'avais travaillé sur d'autres résonances à l'après-midi, mais j'aime bien pas être dans le confort, être sur ce qui-vive, qui pour moi aide à projeter une improvisation et être vraiment soi-même surpris de ce qui se passe. Pas être dans le confort.
Et alors un peu même question qu'à Claire qu'a posée tout à l'heure. Sébastien, comment vous travaillez votre improvisation? Parce que vous n'aviez pas de partition évidemment écrite. Est-ce qu'il y avait des sortes de thèmes, des idées directrices? Comment vous avez... Parce que visiblement, il y avait un... Le spectacle a duré 20 minutes, on vous avait demandé 20 minutes, vous avez tenu 20 minutes précisément. Voilà, c'était ni trop long ni trop court, vous avez une bonne note, hein, voilà, de ce point de vue-là. Hier soir, tout était parfait de ce point de vue-là. Mais donc, comment vous avez organisé le fait d'improviser pendant 20 minutes, puisqu'il s'agissait de 20 minutes, en effet?
Moi, je me suis posé des chemins, des possibles. J'appelle ça des doudous, des choses qui rassurent.
Oui.
C'est-à-dire, j'utilise des objets, des choses, et j'ai plein de chemins possibles. Bon, j'ai travaillé la partition, c'est le travail accumulé sur l'instrument, les différentes choses qui sont sorties, on les a en mémoire dans le corps, on les a réécoutées, parce que moi aussi je pratique beaucoup l'enregistrement, et je travaille beaucoup à partir de la réécoute, de la mise en distance de ce qui se fait dans l'instant. Et donc il y a énormément de chemins, des cheminements, des possibles, et souvent des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Donc et je suis souvent à la recherche de l'accident, ce qui va moi-même me surprendre et m'amener sur un autre chemin qui va pouvoir se rajouter un petit peu au tiroir que j'ouvre au fur et à mesure. Donc hier, j'ai pas tout utilisé, j'avais plein de cheminements, je m'étais posé des objets qui sont pas tous venus au moment où ça s'est fait. C'est surtout être dans l'écoute, être là et savoir entendre l'accident qui arrive et qui va amener soi-même surprendre, être toujours... à l'écoute, et toujours dans l'instant, parce que l'improvisation, c'est l'instant. Ça se passe là, et après, ça s'en va, ça y est plus, c'est là. Il faut y être, hein, on se prépare à être, à ce moment-là, apte à y être, à être habiter l'instant. Claire.
Ça, c'est l'état de présence, là, et c'est vraiment, pour nous, improvisateurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... C'est pas compliqué, mais ça se travaille. Puis c'est une envie, quoi. C'est un désir qui doit être là à ce moment-là. Et y a ce côté aussi dans le solo qui est difficile. Moi, la première fois que j'ai fait un solo, j'étais décomposée avant, quoi. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi, quoi? C'était pourquoi faire ça? Parce que c'est compliqué de se retrouver face au silence, quand même. Donc, puis après, avec l'habitude, ça change. Mais c'est quand même un challenge à chaque fois, quoi, de faire un solo improvisé. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je sais que la voix aussi, elle peut être différente en fonction des jours. Donc, il y a des fois des choses que, là, ça ne passe pas. Ou alors, des fois, ça passe. Et voilà, donc c'est variable.
Oui, puis le public n'est jamais le même public.
Aussi. Et ça, c'est vrai que ça compte beaucoup.
Bien sûr, oui.
Mais cet état de présence dont vous parlez tous les deux, on l'a, il me semble, hein, je ne sais pas si Julien, tu es d'accord avec moi, mais elle est fondamentale pour nous aussi quand on lit un texte, et y compris même quand le texte est parfaitement écrit et qu'on sait ce qu'on va dire. Parce que, en fait, ce qui se dit quand on dit un texte, en fait, quand on écrit un texte et qu'on le dit, il y a deux textes en même temps. Il y a celui qui est écrit sur la page, qui est virtuellement, qui offre une grande virtualité de lecture selon les individus qui vont le lire tout seuls chez eux, dans le secret de leur intériorité, on peut dire. Et puis, quand on le dit sur une scène, il y a tout d'un coup un corps, et ce corps, il parle à travers le texte, il parle en dessous, à côté, il déplace les discours. Et par exemple, moi, j'ai été très sensible hier dans le travail de Laura Vasquez, En fait, les temps qu'elle joue entre chaque... C'est un texte qui est construit comme des sortes de... Le premier texte qui s'appelait « Poème pour Donald Trump », c'est une série de sorte d'aphorisme, hein, de petits textes, et en fait son visage joue, son corps joue, le temps qu'elle met à passer d'une feuille à une autre, tout ça parle, on ne sait pas exactement de quoi ça parle, mais ça parle et ça fait partie d'une précision, d'une présence, et en tout cas moi dans ce que j'écris quand même essentiellement dans l'idée que ça va se passer sur scène, même si j'essaye de conquérir un espace un peu de la page ou du livre, ce qui est difficile pour moi mais intéressant aussi. Quand j'écris sur la scène, il y a quelque chose d'un peu animal, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui est un peu en dessous de toute raison, de quelque chose de l'ordre du souffle, quelque chose d'un peu sur lequel je n'ai pas prise au fond. Et si je voulais avoir prise là-dessus, ça raterait, je risquerais d'empêcher même que ça se produise. Il faut juste que je sois très précisément là pour que quelque chose d'autre travaille en même temps dans la profération du poème.
Je sais en tout cas que je ne répète pas, parce que quand je fais un texte et que j'ai prévu pour l'oral, ce qui est le cas de la plupart, il m'arrive des fois de lire certains passages en les gueulant, d'autres fois, à une autre lecture, je vais les chuchoter, mais parce que je le sens comme ça à ce moment-là avec le public, avec la salle, avec ce que j'ai lu avant, avec ce que j'ai lu après, et... En fait, mon texte, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois je me dis pourquoi j'ai chuchoté là. Ou à moi je vais jouer avec le micro qui marche pas, ou avec l'acoustique du lieu, ou un objet, ou voilà, on sait pas trop où ça va. Et en fait c'est ça qui est, on parlait de s'amuser, mais c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que si je répète un truc et que je sais que je vais le reproduire exactement comme il est écrit, non, je le fais pas, quoi, ça m'intéresse pas. Et alors, je pourrais refaire deux fois la même chose, mais si je le refais deux fois la même chose, ce sera par accident aussi. L'idée d'accident est importante. Enfin, je trouve que ce qui fait plaisir quand on lit, c'est le casse-gueule, quoi. On est sur un fil, et c'est cette excitation-là qui est marrante. Alors, bon, des fois, ça passe bien, des fois, on se prend les pieds dans le fil, mais sans ça, enfin, je ne vois pas l'intérêt de tenter ça.
Ce qui est troublant quand on lit et qu'il y a une salle pleine et une attention et qu'il y a une force comme ça, c'est que quelque chose qui s'aimante. Et effectivement, tu dis on est sur la corde raide et tu dis c'est drôle, mais en même temps on flippe vachement. Alors au fond, qu'est-ce que c'est ? On lit un texte dans un théâtre, hein, c'est pas non plus. Mais il y a quelque chose qui se joue, qui est décisif, dont on sent qu'on en possède une partie du chemin, mais pas complètement tout. Et moi, je sais que j'écris pour ça aussi, c'est presque comme une jouissance, hein, terrible de sentir qu'il y a comme une algèbre du moment, du lieu, de l'intensité, de la phrase, de la syntaxe. Il y a quelque chose qui se tend, qui fait sens, qui tire, qui crée quelque chose dans l'invisible, qui crée des liens auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et c'est ça qui me touche et sans doute qui nous touche dans le travail, ce travail de travailler, enfin d'être sur scène, c'est cette possibilité aussi de sentir que quelque chose nous échappe et que c'est jouissif que ça nous échappe et que ça nous échappe qu'à partir du moment où on est très précisément à vouloir malgré tout pas le tenir mais se tenir sur une intensité. Et moi, j'adore ça. Hein. C'est vrai que c'est une expérience très différente, le solo, on va dire, même le solo de poésie sonore, et le duo ou les autres formes. Enfin, le duo étant encore une forme particulière. Mais moi, dans les rapports que j'ai pu avoir avec des musiciens, c'est vraiment une chose très différente d'aborder la scène tout seul avec un texte et de me dire, comme par exemple l'année dernière, je joue avec un bassiste, avec Eddie Boubaker. Ça modifie complètement. Et c'est une autre dynamique.
Dans les gens qui sont importants pour moi, il y a Jean-Pierre Bobillot, qui était mon professeur et qui est un poète qui a été très important pour le groupe de Boxon en général. Et lui, sa définition de la poésie sonore, c'est du bruit dans la .com. Et cette idée de bruit, elle est super importante, d'après moi, pour comprendre cette poésie-là qui se passe en public, mais ça marche aussi pour vous, musiciens. C'est le bruit dans le schéma de communication. Il y a l'émetteur, le récepteur, il y a le message, il y a le canal, la voix, l'amplification, l'air, ici les ondes pour la radio. Et il y a le bruit, c'est tout ce qui se rajoute. Ça peut être du vrai bruit, ça peut être l'accent de quelqu'un, ça peut être le défaut d'articulation ou le moment où on se plante dans la lecture. Mais c'est ce qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur. Et je trouve que c'est là où ça se joue pour cette poésie-là. Et moi, dans les gens qui me sont importants aussi, il y a Godard. Et moi, je suis formé essentiellement à Godard. c'est mon poète préféré. Et au début de Pierrot le Fou, il cite Elifor qui parle de Velázquez et qui dit qu'à la fin de sa vie, il ne peut nier plus les choses, mais ce qu'il y avait entre les choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut travailler quand on écrit un texte pour le lire en public. Il faut essayer de travailler ce qu'il y a entre notre texte, la façon dont on le lit et le public qui va le recevoir.
Mmh. Il y a une notion qui va bien avec le bruit, c'est celle de parasite. Parce que le parasite est effectivement le bruit, enfin, c'est qui se met à côté, qui mange à côté, et qui est juste là, qui à la fois gêne et qui rend possible la communication. Et du coup, c'est là où se trouve la zone de la poésie. Et de ce point de vue, il y a un rapport entre le parasitisme et la prostitution, entre Boxon, etc. Parce qu'effectivement, les prostituées sont un peu des parasites, ou les parasites tournent autour d'elles. Et c'est là que se fait le bruit, justement, qui nous importe. Et le bruit est un peu informe, et donc à voir avec l'improvisation, en effet. Et alors, pour revenir un petit peu aux bruits sonnantes en général, ce qu'il y a, c'est que dans le Festival des bruits sonnantes, avec Sébastien, on est très amateurs de travaux improvisés, musique, poésie, etc. Et lui est comme moi. Mais en même temps, on est des formalistes rigoureux. C'est-à-dire que le Festival des bruits sonnantes dure 3 jours, comme la Sainte Trinité. Chaque soir, il y a trois intervenants qui sont là. Et chaque intervenant a 20 minutes 00. Et nous sommes extrêmement sévères pour le dépassement et en dessous. C'est-à-dire avec quelques secondes. Voilà.
Mais parce qu'effectivement... On avait dit 25, hein, c'est oui, possible. Parfois, on dit 25. Pas, là.
Non, mais, bon, parfois, on négocie. On négocie, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, on tient beaucoup à cette coïncidence entre l'improvisation effectivement et la forme. Et il nous semble presque que, on le voit dans le Festival des bruits sonnantes, que la forme est comme la condition de l'improvisation. Pour que l'improvisation soit vraiment improvisée, il faut qu'elle soit dans une sorte de forme. Et donc c'est une sorte de contradiction absolue, hein, quelque part. Et qui en même temps, ce que ce festival qui s'appelle les bruits sonnantes, qui veut dire en effet bruit, sonnante, il y a Rabelais qui se balade, c'est un peu le grand n'importe quoi. Et cependant, c'est un festival, il n'y a pas plus catholique que ce festival, va-t-on dire, à cause de la Sainte Trinité, véritablement. Hein, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Et voilà. Et alors, demain soir, on aura encore, disons, des choses terribles. Bon, ce soir, nous avons donc les parleurs Julien Brigeon et Claire Bergerot. Demain soir, il y aura donc une conférence sur l'Afrique et sur la France Afrique Poésie, on y reviendra. Il y a Sébastien Blaspinas demain soir qui, je pense, attaquera. Il y aura deux grands Suisses, dans tous les sens hein, du mot grand, qui sont Vincent Barras et Jacques Demierre, qui arrivent donc de Genève et de Lausanne. Vincent Barras étant un type qui a une double, une triple, une quadruple vie, parce qu'il est à la fois médecin, psychologue, musicologue, traducteur. Je le rencontre ailleurs dans des colloques, etc. Et Jacques Demierre est aussi un type qui a plusieurs vies. Et donc, ils seront 2 Suisses avec au moins 4 vies chacun, c'est-à-dire on aura 8 Suisses d'un seul coup. Et enfin, on aura un grand génie qui sera Jean-Sébastien Bach, qui va apparaître sous les traits de Anne Choquet avec une flûte. Et donc, demain soir, on aura à la fois donc un Français de Marseille, Sébastien Espinasse, un peu africain sur les bords, qui sera un poète performeur. On aura 2 grands Suisses, qui sont 8 en réalité, qui font la poésie sonore. Donc c'est l'espace européen, on va dire, enfin tout ce que l'on veut, la richesse, les contes en Suisse. Et on aura aussi quelque chose qui vient du paquet, du passé, mais qui est en même temps très présent, qui est le musicien le plus présent du passé ou le plus passé du présent, qui est Jean-Sébastien Bach. Et donc c'est un peu le programme des bruits sonnantes. Je ne sais pas, quand on a discuté avec Sébastien, on est arrivé à ces points d'équilibre, on va dire...
Avec toute l'équipe du
avec toute l'équipe
aussi,
du hangar, c'est-à-dire avec la compagnie Lohengrin, avec Jean-Marie Champagne, avec Laurence Rioux et Didier Roux, plus le chien qui de temps en temps intervient aussi pour surveiller les discussions qui sont houleuses. Alors je crois que tu peux reprendre un petit peu, parce que j'ai un peu oublié des choses sur les principes. Il y a aussi la librairie ou les beaux jours, il y a des tas de gens dans le festival.
Ah oui, il y a des tas de gens dans le festival, effectivement. Il y a la librairie qui est partenaire, qui est un partenaire privilégié du festival depuis son origine, si mes souvenirs sont bons. On est heureux, bien sûr, d'avoir le sésame becquetien qui est avec nous. Et puis on est heureux aussi, et c'est une chose importante, que les gens qui viennent voir, découvrir des univers puissent facilement prolonger en fait ce qu'ils ont découvert, s'ils en ont envie, en achetant un livre, un disque, ou ils sont des choses qui se font encore d'acheter un disque. Il y a aussi notre partenaire Canal Sud, nous sommes très contents d'être sur les ondes. Et après, il y a toutes sortes de partenaires institutionnels dont peut-être je me permettrai de les évoquer très rapidement par cette phrase. Et alors, justement, je me permets de t'interroger, Yves, puisque demain, tu nous fais une conférence qui, je crois, le titre a été honteusement tronqué. Je crois que le vrai titre, c'est France-Afrique, Sea, Sex and Sun, c'est ça ?
Oui, c'est ça, France-Afrique, Sex and Sun.
Oui, alors, honnêtement, Yves, je te connais depuis quand même longtemps. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi tu nous parles de ça, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de France-Afrique ? C'est encore un rêve giscardien ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Naturellement, il y a Giscard. Mais il y a toujours Giscard partout, avec moi et avec d'autres, d'ailleurs, au demeurant, puisque c'est le plus grand artiste contemporain de tous les temps. Mais donc,
je dois dire juste que Yves Lepestipon est le grand spécialiste de la poétique, et oui, ça existe, hein, de la poétique giscardienne. Il a fait un film avec Catherine Aïra sur le travail profond dans la littérature, la faille profonde que Giscard fait dans la littérature. Voilà, je te laisse continuer. Voilà.
Et donc tous les ans, effectivement, ça fait partie de la forme du Festival de Brissonnante, il y a une conférence, disons, de théorie un petit peu sur de la poésie. Alors on tient beaucoup à ce qu'il y ait à la fois des actions, des performances, de la musique, etc. Et une partie théorique, dont une partie, c'est effectivement le dialogue là, ou la table ronde que nous avons là, et une autre partie théorique qui est effectivement, disons, la conférence. Alors comme c'est une conférence action, c'est une théorie un peu bizarre, et un des principes, parce qu'on est effectivement formaliste avec Sébastien, c'est que tous les ans, la conférence doit suivre absolument le thème du Printemps des Poètes. Comme en général, le thème du Printemps des Poètes est un peu ridicule, genre couleur femme, des choses comme ça, c'est un plaisir de le suivre, d'autant plus que ça accompagne cela de théories diverses et variées dans le site du Printemps des Poètes. Par exemple, le thème cette année, Afrique, on apprend en gros que l'Afrique, c'est le mythe, l'Afrique, c'est le corps, l'Afrique, c'est le noir, etc. Enfin, un tas de choses comme ça. Ils sont très gentils et très coupables. Et donc, c'est très amusant de se dire qu'il y a une vieille affaire France-Afrique, donc on sait bien Pasqua, Gilbert Mitran, etc., qui aussi se roule dans le 17e siècle, le 18e, le 19e et le 20e siècle en poésie. Et donc, de combiner ça avec la chanson de Gainsbourg, Sea, Sex and Sun, parce qu'en effet, l'Afrique a quelque chose à voir depuis bien longtemps, au moins depuis, on en parlera demain, depuis le poète Claude Malville au XVIIe siècle, avec le sexe, évidemment, c'est toujours ça, bon, c'est toujours la même chose, l'Afrique c'est le sexe, voilà, jusqu'à Nafissa Tudelo, hein, bien entendu. Et puis évidemment c'est sun, parce qu'il n'y a pas plus sun que l'Afrique, hein, voilà, c'est ce qui est dit, il fait chaud en Afrique, et donc le soleil noir de l'Afrique répond au soleil noir de la poésie. Et donc demain, on essaiera à la fois d'expliquer deux, trois trucs sur l'Afrique avec Sébastien Lespinas, on lira aussi des passages de notre ami André Gache qui a composé un livre sur les Dogons qui nous intéresse beaucoup. On réfléchira un petit peu sur qui sont les poètes africains que nous ne connaissons pas, et nous essaierons de démontrer vraiment que nous sommes les véritables Africains. Mais ça, c'est demain.
Ainsi soit-il.
Ainsi soit-il. Oui, alors il nous reste encore un quart d'heure, et donc l'essentiel va être à dire. Parce que là, brusquement, nous sommes.
Moi, je voudrais bien dire deux mots, si ça ne vous dérange pas, sur ce que je vais faire demain soir. Je vais lire un texte qui est important pour moi, qui s'appelle « Esthétique de la noyade ». C'est un titre, évidemment, un peu provocant, a priori d'une chose aussi terrible que la noyade, qui évoque immédiatement en chacun de nous des images d'actualité. Il est difficile de penser que ce soit une esthétique, que ce soit joli. En fait, le terme d'esthétique de la noyade, ce titre-là, renvoie vraiment au projet que j'ai de faire avec ce livre, qui consiste à travailler, d'essayer de cheviller la langue à la sensation. L'esthétique étant le mot qui veut dire sensation, mais qui veut dire aussi une théorie de la sensation, et cet aspect théorique m'intéresse un peu, bon, même si je suis très loin d'Emmanuel Kant, mais cette idée d'esthétique est importante. Alors, ce livre, je l'ai démarré il y a très très longtemps, en fait. Je me suis rendu compte en rangeant un peu mes papiers que j'avais écrit un poème de noyade il y a à peu près 20 ans qui consistait en une série de mots, de monosyllabes dans lesquels je m'étouffais. Et cette idée performative, si je puis dire, de la noyade m'intéressait. Elle a rencontré en fait un texte de Tarkos qui pour moi est fondamental, qui est dans le signe égal, qui s'appelle Le Bain, dans lequel un personnage fait l'expérience de se baigner et découvre au fond qu'il peut éprouver son corps différemment dans une totalité. Et cette dimension-là, de découvrir une expérience totale, est celle qui a un peu à la fois de décrire la sensation, de décrire les sensations de cette expérience totale. C'est un peu un des objectifs ou une des forces de ce que j'essaye de faire, une des lignes forces de ce livre. J'essaye de mettre du poids dans les mots, de faire en sorte qu'ils coulent, qu'ils coulent un petit peu en dessous du sens, qu'ils deviennent autre chose que des... que leur contour s'ouvre et qu'ils se diluent un peu dans une sorte de sentiment océanique de participation au monde. En même temps, évidemment, il s'agit aussi d'écrire un cri et de l'écrire de manière effectivement très formaliste, avec des dispositifs d'écriture un peu particuliers. C'est sans doute le texte que j'ai le plus ciselé de tout ce que j'ai pu écrire. C'est important, cette notion de forme, parce que c'est le cadrage qui rend compte. Il faut un cadrage serré pour rendre compte de ce qui est en dehors du cadre. On est obligé de faire ce travail-là de cadrage. On est obligé de ne pas tout dire pour faire sous-entendre ce qui se dit autour. Et donc ça, c'est le travail. Demain, je n'irai bien sûr qu'une trajectoire à l'intérieur de ce livre. Et puis, il y a aussi un autre élément important. C'est lié à deux poètes qui sont pour moi majeurs, que nous entendrons d'ailleurs, enfin nous entendrons un d'entre eux ce soir avec les parleurs, Paul Celan, ou Celan, je ne sais pas comment on prononce, et Gerasim Luka, qui tous deux se sont noyés en se jetant dans la Seine, et qui ont donc choisi un tragique de la mort, une sorte de tragique de la mort la plus expérimentale possible, celle qui est longue, celle où on vit vraiment une expérience. Je pense que ces poètes ne voulaient pas rater leur mort. Et ça m'intéresse, cette idée de ne pas vouloir rater sa mort dans une société où, au fond, le rêve de tout le monde est de mourir en s'endormant. Il y a quelque chose de l'ordre du cri, de l'ordre de l'expérience ultime, de l'amour de la vie jusqu'aux confins même de là où la mort approche, qui me fascine, qui me trouble. Je n'en rends pas véritablement compte dans le poème, je l'indique juste au passage, parce que c'est une question qui est pour le moment trop grosse pour moi. Bien sûr, le texte fait aussi référence à la tragédie des migrants en Méditerranée, même si ce n'est pas l'origine du texte, que j'ai commencé à décrire bien avant d'avoir eu vent en fait, de cette tragédie. Là-dessus, je ne réfléchis pas, je ne donne pas une réflexion géopolitique sur tout ça. Il y a des gens qui ont fait un travail remarquable. Je vous recommande, si la question des migrants vous touche, de lire un livre fondamental de Rada Ivekovic. Rada Ivekovic, c'est chez Aldante, qui a écrit Les Jetables et qui, dans la perspective un peu de la pensée de Judith Butler, se pose la question sous quelles conditions une vie vaut la peine socialement, enfin, vaut la peine d'être non seulement vivable, mais surtout secourable. Et c'est une interrogation assez pessimiste, mais en même temps fondamentale, sur le rôle même de l'Europe. Mais là, je vais m'égarer, je ne fais pas une réflexion sur ça. Tout ça est un peu au bord du cadre. Et le cadre fondamental, c'est cette expérience du langage qui prend du poids, qui coule sous le sens, et qui... Après, je ne serai pas tout dire, là. Il y a des choses qui m'échappent quand même.
Je crois que peut-être il y a un mot vers lequel tu glisses, c'est le mot politique.
Oui.
Et il me semble que Les Bruits Sonnantes, c'est aussi un festival politique. Non pas parce qu'on est dans la campagne électorale, mais parce qu'il me semble qu'il y a une liaison très profonde entre ce que nous faisons tous avec la politique, et non pas tel ou tel parti politique précisément. Et je ne sais pas si ce mot politique, si on le lance comme cela, peut-être, je ne sais pas, Laurent, peut-être, non pas pour donner tes opinions politiques, mais est-ce que tu as l'impression, quand tu fais ce que tu as fait hier ou d'autres choses, tu fais un acte politique
c'est inclus, oui. Si on peut parler de poétique ou de politique, un acte comme prendre un objet à peu près courant et le détourner, sortir des cadres. C'est montrer qu'on peut utiliser d'autres trajectoires, tout simplement.
Est-ce que le fait d'avoir des cheveux très longs, je le décris pour les auditeurs, n'est pas un acte politique dans cette époque de cheveux courts ?
Si.
Est-ce qu'il n'y a pas...
Voilà, si, on renvoie... Donc,
est-ce que la mise en scène du corps n'est pas aussi un acte politique ?
Si, bien sûr.
Ouais.
Danser dans la rue ou des choses comme ça, c'est complètement une forme d'acte poétique, politique, mais montrer qu'on n'est pas obligé de tout se ranger sous la même coupe de cheveux, sous la même façon de marcher, de se vêtir. On peut être différent, habiter de différence sans pour autant vouloir agresser l'autre. Il y en a qui se sentent agressés quand on est différent.
Le dernier disque de Sébastien avait un disque de gueule, un couac. Et est-ce que c'est pas non plus avoir des gueules, ta gueule, un acte politique aussi, enfin, tu vois,
Moi, je sais pas. C'est un peu compliqué parce qu'on peut finir par dire que tout est politique. Bon, c'est, voilà, on peut. Non, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que le travail artistique, quand il se fait sans concession, il ouvre des espaces d'utopie, de rêverie, d'imaginaire. Il honore l'autre de lui laisser un espace pour penser, pour sentir. Et ça, c'est voilà. Ça, c'est on peut appeler ça politique si on veut, on peut appeler ça humain, on peut appeler ça poétique, bien sûr.
Et le choix, d'une certaine manière, de l'accordéon contre le piano.
Oui, je ne sais pas si c'est un choix politique, je dirais plus c'est plus lié à ma vie, plus lié à Giscard, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ses diamants. Je sais pas. Enfin, oui, en tout cas, je sais quand je dis je joue de l'accordéon, c'est il y a plein tout un tas de clichés qui arrivent et voilà, j'aime bien lutter contre ça et j'aime bien faire jouer de l'accordéon, par exemple, à des gens qui savent pas en jouer. J'aime bien. Je me prépare à faire un projet comme ça où, de 100 non accordéonistes. J'ai déjà écrit une pièce pour 10 non-accordéonistes. Et oui, on est au cœur du truc, parce que là, on se rend compte que l'accordéon, ça peut être un instrument électroacoustique, en fait. Et ça n'a rien à voir avec Yvette Turner et tout ça, même si j'ai beaucoup de respect pour Yvette Turner, mais ça peut être autre chose. Et tout, en fait, je dirais que tout ce qui nous entoure... peut être détourné, être autre chose. Hier soir, je faisais un projet avec des enfants et des téléphones portables. Ben alors, c'est assez drôle parce que je suis allée dans les classes et les enfants n'ont pas le droit en sixième d'avoir un téléphone portable. Et on a fait de la musique avec les téléphones portables. Et ça, c'était assez... c'était pas mal, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est... parce que déjà, on détourne la loi. C'est bien. Et puis après, parce que ça ouvre autre chose, on ouvre les esprits des enfants et puis aussi des plus grands, parce que c'est pareil, les adultes, quand on leur dit « on a fait un concert avec des téléphones portables », c'est bizarre, c'est vrai. Mais tout est bizarre, en fait.
Tout est boxon ?
Oui, tout est boxon, parce que boxon, c'est le bordel, et le bordel est nécessaire. Il faut que, enfin, franchement, cette notion de bordel, elle est importante. Je pense que la désorganisation, ça apporte beaucoup de création. Et voilà.
Oui, il paraît que parmi les fourmis qui sont réputées pour travailler, celles qui résistent le mieux quand la catastrophe, c'est des fourmis paresseuses qui foutent le bordel. Parce que quand on a un coup de pied dans la fourmi, seules les fourmis qui foutent le boxon survivent. Ouais. Et donc, voilà, c'est une sorte de parabole.
J'ai écrit un petit recueil de fables il n'y a pas longtemps, là, qui s'appelle Fab Lab. C'est dans mon village, il y a une dame qui fait de la poésie poétique, qui est venue me voir et elle dit « Ah, je viens de sortir un recueil de fables ». Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il faut pas. Je n'avais pas dit, mais j'ai pensé ça très fort. Je me suis dit, pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Puis après, je me suis dit, évidemment, si ça ne se fait pas, c'est qu'il faut le faire. Donc j'en ai écrit. Et justement, c'était sur pas mal de. Il y a des fourmis, il y a plein d'animaux comme ça, avec des fables démoralisantes. Parce que c'est toujours dans la morale. Et je trouvais que c'était marrant de faire des fables démoralisantes où il y a notamment le lion qui est absolument feignant et qui ne fout rien. Qui fait juste se dorer au soleil tranquillou et il est roi. Et voilà, donc c'est que des fables à morale. Et donc c'est bien comme la fourmi.
Oui, oui. Et moi aussi, je connais bien les fables. J'ai fait aussi un recueil de fables qu'il ne faut pas faire. Enfin voilà, et Sébastien connaît bien tout ça. Et demain, on va encore parler de La Fontaine. Et tout à l'heure, encore, on va parler de La Fontaine.
Oui,
les parleurs vont parler de La Fontaine. Voilà, la poésie, l'argent des fables, à propos des fables, sur les fables et contre les fables. Voilà. Et toi, est-ce que tu te vois, Sébastien, comme un acteur du paysage politique toulousain en organisant les bruissonnantes ? D'une certaine manière, il y a de ça. Hein, voilà. Hein, on est quand même bon. Voilà.
Mes chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous accueillir ici aux bruissonnantes.
Quel est le prix de ton costume ?
Tu es un notable de province.
Oui, c'est ça. presque plus maintenant que je vis à Montreuil, c'est terrible. Hein. Non, je ne sais pas. On est content de fabriquer des choses ensemble. Là vraiment, le pouvoir...
Ah non, mais la politique n'est pas le pouvoir, nécessairement. Ouais. Ça peut être aussi le contre-pouvoir, la discussion des pouvoirs. Il y a quand même un paysage de pouvoir de la poésie, des structures, etc., dont le prétend des poètes et bien d'autres, et des lieux, etc., des conflits, des hiérarchies. Et ici, on est quand même près de la rue de l'Avenir, dans le chemin du cheminot, dans le théâtre du Hangar, la compagnie Lohengrin, dans le noir, derrière la gare, dans un lieu qui promet les destructions, et qui brille. Qui brille de mille feux.
Peut-être c'est un mot de conclusion.
Je crois que ça va être un mot de conclusion. C'était une émission remarquable dans laquelle nous remercions la remarquable radio Canal Sud. Nous remercions les nombreux chauffeurs routiers qui écoutent la radio en ce moment.
On remercie Bernard Fontaine, qui est l'opérateur des ondes. Hein.
Qui est un homme remarquable, qui la nuit, le jour, travaille avec nous. Voilà. Merci aux auditeurs de nous avoir supportés. Merci à Bernard Fontaine de nous avoir transportés. Et merci aux spectateurs d'avoir patiemment écouté nos bavardages infinis. Venez au parleur tout à l'heure.